Chapitre 48. 25 décembre 2017. Joyeux Noël, Simone.
Joyeux Noël, mon petit.
Personne ne m'avait appelé mon petit depuis mon grand-père. Simone sourit et rouspète en même temps. Je t'avais dit de ne pas venir aujourd'hui. Je n'allais quand même pas vous laisser gérer ce petit monde toute seule. J'ai rencontré un homme et il me plaît, lâche Simone. Nina est abasourdie. Entre incrédulité et stupeur, elle fixe Simone comme si cette dernière venait d'avouer un crime et de lui indiquer le lieu où elle a caché le corps. Discrète, adorable et élégante en permanence, Simone est veuve depuis des années, portant le deuil de son fils disparu. Une chape de plomb qu'elle tait. Nina avait presque oublié qu'elle n'en est pas moins une femme. Hier soir, nous avons réveillonné ensemble et c'était drôlement bien. Il m'avait invitée et... j'ai dormi chez lui, avoue-t-elle en souriant à Nina.
Mais c'est génial, Simone.
Oui, ça tu l'as dit, c'est génial. Moi qui me pensais fichue pour ces choses-là. Nina se mord la lèvre pour s'empêcher de rire. Comment l'avez-vous rencontré ?
À la danse. Chaque dimanche, ma voisine va guincher au foyer municipal. C'est un machin de vieux avec musette, l'horreur. Moi, mon truc, c'est Mathieu Chédid. M si tu préfères. Tu vois qui c'est ?
Oui.
Bref, un bal pour les veufs, avec repas, pistes et spots. Au début, je ne voulais pas y aller, mais ma voisine a insisté. Elle m'a comme qui dirait traîné là-bas. Et en fait, c'était chouette. Il s'appelle André, je lui ai tout de suite tapé dans l'œil. Et toi ?
Quoi, moi ?
Tu as rencontré quelqu'un ?
Nina ne s'attendait pas à cette question, surtout venant de Simone. Décidément, quand on croit connaître les gens... Elles sont en train de laver les chenilles à grande eau alors qu'il fait moins 5 ce matin. 3 chiens déambulent autour d'elles. Il faut gratter jusqu'à ce que le ciment soit sec. Sinon les surfaces gèlent et ce serait fatal aux coussinets et à l'arthrose des animaux. Elles en ont pour des heures et des heures de travail, à grelotter l'une à côté de l'autre, emmitouflées dans leur grosse veste, un bonnet vissé sur la tête.
« Non, moi je n'ai personne », finit-elle par répondre.
« Ah bon ? Je croyais. » « Tu as la petite mine des jolies nuits. »
Nina rougit comme une collégienne.
« Je n'ai pas rencontré. Disons juste que...
j'ai passé une belle nuit de Noël. Vous avez raison. »«
J'en étais sûre, » jubile Simone.
« Qui est-ce ?»«
Le monsieur qui a adopté Bob, » avoue Nina en rougissant de plus belle.
« Ah oui, je vois. Bien, très bien. Et comment va Bob ?»«
Bien. » Très bien, plaisante Nina.
Il est heureux ?
Très heureux.
Moi, je vais prendre Canelé. Je l'emmène tout à l'heure.
Nina est stupéfaite.
Je croyais que vous ne vouliez plus de chien chez vous.
Moi aussi, je croyais.
Tu sais, Nina, on croit, et puis on se trompe.
Louise entre dans la chambre d'Étienne, referme la porte tout doucement derrière elle. Après la distribution des cadeaux, son frère est remonté se coucher, prétextant un mal de tête. Il dort. Louise s'assied sur le lit pour l'observer. Elle pose délicatement 2 doigts sur son poignet pour prendre son pouls. Elle est encore imprégnée d'Adrien. Elle le porte sur elle, comme un manteau qu'elle va mettre des jours et des jours à retirer. Puis elle le posera sur un cintre, jusqu'à un jour prochain. En regardant son frère dormir, elle se souvient de Saint-Raphaël, l'été de ses vacances avec les 3. La première fois que Louise a regardé un garçon dormir, c'était Adrien. Comme ce matin, elle s'était glissée dans sa chambre. Nina et Étienne étaient partis avec Marie-Laure et Marc pour faire de la plongée. Adrien avait préféré rester à la maison, sa peur panique des serpents, la trouille de tomber nez à nez avec une bestiole sous-marine qui y ressemble. Louise est restée longtemps près de lui, puis il a ouvert les yeux. Dans la pénombre, il a mis quelques secondes à la voir, la deviner, assise dans un rocking chair à 2 mètres de lui. Il lui a souri, lui a demandé de venir près de lui. Elle s'est assise sur le bord du lit. Il a dit « Tu sais, je ne suis pas un garçon comme les autres. » Elle a répondu
C'est pour ça que je t'aime. Tu m'aimes ?
Oui, depuis que je suis toute petite.
Tu es toujours toute petite.
Non, j'ai 13 ans.
Tu as déjà embrassé une fille ?
Sur la bouche ?
Oui.
Non,
je n'ai jamais embrassé personne.
Tu as déjà fait l'amour ?
Ben non, puisque je n'ai jamais embrassé personne.
Tu veux qu'on essaye ? Lui a-t-elle demandé.
De faire l'amour ?
Non, de s'embrasser.
Adrien a fait oui de la tête. Elle s'est glissée sous le drap contre lui, a mis sa tête sur son épaule. Son cœur battait à se rompre, mais ce matin-là, elle se sentait tous les courages. Elle aurait pu rester ainsi toujours dans cette chambre, la fenêtre ouverte, les persiennes tirées, les stries de lumière vive, le chant des cigales à l'extérieur. Elle chantait à partir de 10 heures, dès que le soleil se posait sur les pins. C'était leur signal de départ. Louise s'est assise dans le lit et s'est déshabillée. Elle portait une robe en coton à bretelles jaunes, sans sous-vêtements. Adrien était en caleçon. Il a pris la robe dans sa main, l'a respirée.
Tu sens bon.
Elle s'est retrouvée nue contre lui. Adrien s'est écarté pour la regarder. Il a posé ses yeux sur chaque partie de son corps, comme fasciné, comme s'il admirait une toile de maître.
Tu es belle, Louise.
Puis du bout des doigts, il l'a effleurée. Le visage, la bouche, le cou, les seins, le ventre, le sexe, les cuisses. Il est descendu et remonté plusieurs fois le long de son corps. Juste du bout des doigts. Elle se souvient encore de ses frissons, sa peau devenue chair de poule, un liquide chaud entre ses cuisses, comme une violente envie de faire pipi dans son bas-ventre. Elle a fini par fermer les yeux. Elle lui a dit « Je me caresse souvent en pensant à toi. Tu veux voir comment ?» Adrien a répondu oui. Elle s'est allongée sur le ventre, a tourné la tête vers lui, l'a regardé dans les yeux et s'est caressée. Il avait plaqué sa robe contre lui, comme pour la respirer elle, sans la toucher. Puis à son tour, il s'est allongé sur le ventre et l'a imité. Ils ont joui ensemble, en se tenant la main. Que du silence dans la chambre. Les yeux de Louise dans ceux d'Adrien. Ils se sont rapprochés et se sont embrassés sur la bouche, cherchant la langue l'un de l'autre. Après, ils se sont endormis. Dans une chaleur partagée.
Tu penses à lui, grommelle Étienne.
Louise sursaute.
Non, je pense à toi, il faut qu'on parle.
Étienne ramène un oreiller sur sa poitrine.
Sors de ma chambre, j'ai vu à tes yeux que tu pensais à lui. Tu n'as jamais su mentir.
C'est vrai que pour le mensonge, c'est toi l'expert.
Qu'est-ce que tu veux ?
Te faire hospitaliser.
Il lui tourne le dos.
J'irai pas.
C'est ridicule. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour Valentin.
Pour qu'il me voie souffrir ? Me faire charcuter, perdre mes cheveux, dégueuler après les chimios et ne plus tenir debout ? Tu veux que mon fils voie ça ?
Au moins, il verra que tu te bats.
Marie Castille entre dans la chambre.
Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous criez ?
Louise lui sourit.
Non, c'est rien. Je voulais qu'on aille voir un vieil ami ensemble.
Quel ami ? Demande Marie Castille, suspicieuse.
N'en parlons plus, la coupe Étienne. Je n'irai pas.
Mesdames, auriez-vous l'obligeance de quitter ma chambre ? J'aimerais me lever et je suis à poil. Vous connaissez ma pudeur légendaire ?
Louise se lève et sort, accablée. Elle essaie de sourire à Marie Castille, mais n'y parvient pas.
L'espace d'un instant, elle se tourne vers elle pour lui dire la vérité. Trouver l'aide dont elle a désespérément besoin pour faire plier son frère.
Étienne, qui la devine et l'entend penser, crie froidement. Louise, non !
Elle réprime une envie de hurler, ravale ses larmes et quitte la chambre. Derrière la porte, elle entend Marie Castille et son frère se disputer.
« Calme-toi, tout va bien, me prends pas la tête. Un copain de lycée, pas envie de le voir.
Louise insiste, vous me saoulez tous, j'ai envie d'être seule.
S'il te plaît, je suis fatiguée.
Tu me caches quelque chose.
Étienne.
Oui, ma bite, j'aime pas qu'on me voie à poil. Ne pleure pas, c'est Noël. La paix, pitié, la paix, on est en vacances. Venir m'emmerder jusque dans ma chambre.
Valentin rejoint Louise. D'un regard, elle fait comprendre à l'adolescent qu'elle a échoué une fois de plus.
Je rentre chez moi, les bras chargés de paquets. Je les avais dans le coffre de ma voiture depuis plusieurs jours, mais j'attendais Noël pour les lui offrir. Ça y est, je suis passée de l'autre côté. La débilité profonde. Je fais des cadeaux à mon chaton. À moins que ce ne soit les prémices d'une sénilité précoce. Je pose un nouveau panier ultra doux contre le radiateur, un arbre à chat à côté du canapé, alors que dans quelques mois, il aura toute la campagne environnante pour s'ébattre. J'agite quelques gadgets devant son minuscule minois rose, des jouets en plastique moche. Il pose sa patte sur une petite balle qu'il fait rouler. En observant Nicolas, je me dis que j'ai détesté être enfant unique. Et si j'allais en chercher un autre? Un petit aussi, pour qu'ils grandissent ensemble et qu'ils soient branchés sur la même longueur d'onde. Nicolas s'ennuiera moins avec un congénère à quatre pattes qu'avec moi, une des personnes les plus sinistres et solitaires de la planète. Chez moi, même les plantes finissent par se suicider, refusent de s'alimenter, tombent des fenêtres, s'automutilent. Heureusement que mon tilleul est âgé, qu'il a eu le temps de pousser avant mon arrivée, de fréquenter le ciel de suffisamment près. Il doit y avoir une permanence au refuge, même le jour de Noël. Si je n'y vais pas maintenant, je n'irai jamais. Après, je réfléchirai. Et si je réfléchis, Nicolas grandira seul et finira dépressif et neurasthénique, comme moi. 10 minutes après cette soudaine pensée, envie, ce regain de pessimisme ou d'optimisme, je ne saurais dire, je suis garée devant les grilles du refuge. 2 véhicules y sont stationnés, dont le combi Citroën de Nina. Je pénètre à l'intérieur pour la 2e fois de ma vie. Quand Nina m'a surprise en train de glisser l'enveloppe d'argent dans la boîte aux lettres et qu'elle m'a offert un café dans son bureau, il faisait nuit, je n'ai rien vu du lieu. Ce matin, je le découvre de jour. Pas folichon. Fait de briques et de brocs. Des baraques en ciment. Du préfabriqué. À droite, un gros chien noir type griffon aboie sans conviction. À gauche, 3 boxes isolées, dont 2 vides, avec l'inscription « fourrière ». Un chien me fixe. Tristesse. Je baisse les yeux, honteuse. Comme si c'était moi qui l'avais abandonné. Je pousse 1e grille et rejoins le chenil. Partout, il est écrit qu'il ne faut pas mettre les mains à travers les barreaux. Mon entrée dans l'espace des chiens est fracassante. Tous se mettent à gueuler sur mon passage sans discontinuer. Une petite dame finit par sortir d'un local.
Bonjour.
Bonjour. Nina est là?
Elle est partie sortir un chien. Je peux vous aider?
J'ai adopté un chaton et je voudrais lui prendre un copain. La petite dame me sourit et m'entraîne vers la chatterie. Ça sent la merde et le détergent.
Les litières n'ont pas encore été nettoyées, me dit-elle.
Quelques félins m'observent, méfiants. D'autres s'approchent, me reniflent. 1 ou 2 se risquent à se frotter contre mes jambes.
On ne fait pas d'adoption le jour de Noël, m'informe la petite dame.
Pourquoi?
Nos bureaux sont fermés.
Mais Noël, c'est justement le jour où il faudrait pouvoir adopter.
Pas faux, me répond-elle.
Comment vous appelez-vous?
Virginie.
La petite dame me dévisage, comme si elle cherchait quelque chose sur ma figure.
Il est comment, votre chaton?
Me demande-t-elle.
Petit, tout petit, noir avec la truffe rose.
On dit truffe pour un chat?
Museau.
Nina entre dans la chatterie. Elle a l'air transie. Souffle sur ses gants de laine.
Qu'est-ce que tu fais là? Me questionne-t-elle, comme apeurée.
Joyeux Noël, Nina.
La petite dame ne lui laisse pas le temps de répondre.
Ce serait pour adopter un chat, dit-elle d'une voix douce, comme pour s'excuser de m'avoir laissé entrer.
Tu as perdu Nicolas? S'exclame Nina, paniquée et limite agressive.
Pas du tout, j'ai peur qu'il s'ennuie tout seul.
Tu penses que tu vas pouvoir t'occuper de 2 chats? Toi, tu vas savoir gérer ça.
Méchante, cinglante. C'est sa petite vengeance personnelle. Je ne peux pas la blâmer.
Oui, enfin, je crois.
Suis-moi.
Nous traversons un couloir et pénétrons dans une pièce surchauffée. Ici, c'est la nurserie et l'infirmerie. Ça dépend des jours et des arrivages. Trois chatons tigrés dorment, pelotonnés les uns contre les autres. Je pourrais t'en donner un dans une quinzaine de jours. Pour l'instant, ils récupèrent. On peut les séparer ? Elle plante ses beaux yeux noirs dans les miens. Tout de suite me reviennent les paroles qu'elle avait chantées à la fête de fin d'année du collège. On se reverra tous les jours dès notre retour. Où vas-tu, les yeux noirs ? Tu t'en vas vers nulle part. Étienne et Adrien derrière leur clavier, Nina au micro. Nous étions tous en troisième. Ils avaient organisé un concert dans la cour du vieux colombier, sous le préau. Je vois encore la banderole, les lettres 3, joliment dessinées sur un tissu blanc par Nina. 3, c'était le nom du groupe qu'ils avaient fondé. Un hommage à l'album 3 du groupe Indochine, dont ce jour-là, Nina avait interprété Tes yeux noirs, Canary Bay, Troisième sexe, 3 nuits par semaine. Elle a enchaîné avec des chansons originales écrites par Adrien et elle sur des musiques qu'Étienne avait composées. Des paroles un peu bizarres, des mélodies surannées, mais Nina avait une belle voix. J'adorais l'écouter. C'est la vie de se séparer. Faut bien qu'ils grandissent. Faut pas rester collés les uns aux autres, me dit-elle sans ciller. Un ange passe. Il s'attarde. Durant ce long temps mort, comme si on venait de se dire « on joue au jeu du silence », j'observe les chatons endormis. Des cages vides, des sachets de nourriture, une armoire à pharmacie, des médicaments sous clé, un vieux poster où l'on voit un chien derrière des barreaux avec ces mots « coupable de quoi ?» Nina finit par rompre le silence. « Il y a deux mâles et une femelle. Tu veux lequel ?» La femelle.